France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À Marseille, le Rassemblement National tente un coup politique en présentant Franck Alizio face au maire sortant d'hiver gauche Benoît Payan. Le parti d'extrême droite nourrit désormais une ambition longtemps jugée irréaliste, conquérir plusieurs métropoles, dont la deuxième de France. Depuis 2014 et en 2020, le parti du RN administre déjà une dizaine de communes, dont Fréjus, dont le bastion d'Hénin-Beaumont et une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan. Longtemps cantonné au rôle de force protestataire, le RN revendique ainsi aujourd'hui une capacité à gouverner, à gérer des budgets, à assurer la sécurité, à administrer les services publics. Mais que vaut dans les faits cette promesse de bonne gestion ? Quel bilan tirer de l'exercice local du pouvoir et que peuvent révéler les prochaines élections? Deux invités ce soir pour en discuter, pour nous éclairer également. Vincent Joussereau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste et photographe, auteur entre autres de l'ouvrage intitulé « Dans les âmes et les urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote RN ». Un ouvrage qui a paru le 16 janvier dernier aux éditions des Arènes. Avec nous également et à distance, Jean-François Pouplein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste chez Mars Actu et auteur notamment également de l'ouvrage intitulé « Extrême droite, la casse sociale » pour Médias Vivants. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Questions du soir ». Et un chiffre pour commencer, Vincent Joussereau, 650
pour les... C'est Jarousseau.
Jarousseau, vous faites bien de me le dire maintenant, dès maintenant même, Jarousseau. Pour les prochaines élections municipales, donc, le RN prévoit de présenter au moins 650 listes. C'est un record qui témoigne d'un mariage territorial qui avance. Qu'est-ce que ce chiffre-là raconte et décrit plus largement de la stratégie du Rassemblement National ?
Ce chiffre s'inscrit dans une certaine forme de continuité depuis la prise de pouvoir de Marine Le Pen en 2011 dans ce parti, hein, qui est une stratégie de conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir, elle passe nécessairement par, je dirais, la conquête de collectivités locales, de villes, de départements, de régions. C'est un objectif qui a été revendiqué hein, dès les élections municipales de 2014, où ce parti a engrangé quelques succès. Et donc là, on est dans une forme de continuité, mais évidemment une massification de ces candidatures avec, je dirais, des modèles de listes et de candidats, de casting aussi de candidats qui a aussi évolué, hein, puisqu'on voit très clairement, et notamment dans le sud de la France, que ce parti réussit notamment à décrocher des cadres de la droite dite républicaine, traditionnelle, ou même y compris des personnalités de la société civile. Hein, je pense à Ciotat, où on a un président d'une chambre de commerce et, locale qui se présente comme tête de liste dans cette ville. Donc il y a vraiment une stratégie d'implantation, sachant que cette élection municipale de 2026, elle va marquer un tour de chauffe pour l'élection présidentielle dans le contexte instable que l'on connaît depuis l'élection législative anticipée de 2024.
Qu'est-ce qui a changé, Jean-François Pouplein, depuis 2020? On s'en souvient, les élections municipales de 2020 avaient été marquées par des réélections nombreuses de maires Rassemblement National à Hénin-Beaumont, à Beaucaire dans le Gard, à Fréjus dans le Var. On se souvient aussi de Perpignan, une ville de plus de 100 000 habitants qui avait été conquise par Louis Alliot en 6 ans. Qu'est-ce qui a changé?
Alors pour revenir sur la question initiale, il y a les sénatoriales qui sont derrière les municipales, qui sont aussi un enjeu pour le Rassemblement National. À l'automne prochain, donc il y a un intérêt de présenter des listes, d'avoir des élus, évidemment les exécutifs aussi, mais aussi d'essayer d'avoir un groupe parlementaire au Sénat. Depuis 2020, ce qui a fondamentalement changé, c'est l'augmentation du vote Rassemblement National, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Si on prend Marseille par exemple, aux dernières élections législatives, le RN a conquis quatre députés, en tout cas a eu quatre députés sur la ville. La droite, il a siphonné complètement l'électorat de droite, qui n'a plus de députés à Marseille. Il y a quatre députés NFP sur la ville aussi. Donc voilà, où au deuxième tour des législatives, sur la ville, le Rassemblement National, donc dans les circos qui restaient, fait 48%.
Non, je vous en prie, poursuivez.
Donc, on a eu une vraie bascule, en tout cas, je trouve, dans le sud de la France, à Marseille, mais aussi dans d'autres endroits, d'une bascule de l'électorat de droite vers le Rassemblement national, un électorat qui, pour certaines, je pense à Christelle Lagier, qui est une politologue installée dans le Vaucluse, elle parle d'une radicalisation du vote de droite, quoi, où les électeurs de droite se tournent vers le RN en trouvant que c'est lui, que ses propositions représentent les idées auxquelles ils ont envie d'adhérer.
Comment est-ce que vous estimez vous-même, Vincent Jarousseau, que les choses aient pu changer peut-être si vite, notamment depuis 2014, hein. 2014, dans l'histoire du Rassemblement national, c'est une date bascule, c'est 3 ans après la prise du parti par Marine Le Pen, c'est aussi un changement de stratégie du point de vue des municipales.
2014, ça marque une année où le parti engrange ses premiers succès, on va dire, ses premiers succès depuis la prise de pouvoir de Marine Le Pen avec les municipales et quelques mois après les élections européennes où pour la première fois ce parti remportait une élection nationale. Mais il est certain qu'on voit qu'il y a eu un changement de braquet depuis la présidentielle de 2022. Cette progression et cette accélération, elle s'opère surtout entre 2022 et maintenant. On l'a vu aux élections législatives très clairement. Je vais prendre un exemple d'évolution de la structuration du vote. Je pense aux gares et à la couronne nîmoise. On voit par exemple que la ville de Nîmes avait un vote marqué relativement fort pour le NFP, avec une forte mobilisation des quartiers populaires. À l'inverse, on constate une très forte mobilisation et un glissement de l'électorat de droite, voire macroniste, hein, dans la couronne nîmoise, pour le Rassemblement national, avec une structure d'un électorat beaucoup plus âgé. Moi, ce que je ne voyais pas trop en 2014 encore, en faisant mes enquêtes de terrain, où on voyait plutôt des retraités assez méfiants. On a aujourd'hui une génération de retraités, disons, moyen supérieur, qui, pour le coup, est assez irrigué, je dirais, aussi par une partie des médias, hein, des chaînes d'information continue qui ont plutôt un public assez âgé. Et on voit une influence extrêmement claire, effectivement, sur un électorat de droite traditionnel aujourd'hui, où le vote RN devient véritablement le vote utile pour cet électorat.
Mais restons, Vincent Jarousseau, sur le terrain avec vous et prenons l'exemple de cette couronne nîmoise. Sur quels arguments le Rassemblement national parvient-il à attirer cet électorat de droite, de centre-droite? Encore une fois, qu'est-ce qui fonctionne dans le discours du Rassemblement national?
Cette couronne nîmoise, dans sa structure sociale, ce sont des taux de pauvreté qui sont relativement faibles, en réalité, par rapport à la ville-centre de Nîmes. Nîmes, c'est 30% de taux de pauvreté. Si je prends des communes comme Bouillargues, par exemple, on est sur des taux de pauvreté de seulement 10%, donc des zones plutôt pavillonnaires, où les électeurs sont soucieux, je dirais, de préserver un cadre de vie, où il y a des formes de concurrence aussi qui s'opèrent, à la fois des concurrences immobilières, des concurrences aussi sociales. Je vais pas faire référence au livre de mon ami Camille Penny récent sur le triomphe des égoïsmes, mais c'est cette idéologie aussi aujourd'hui qui l'emporte dans une partie des classes moyennes supérieures qui font et défont les majorités, on le sait depuis très longtemps.
Mais là, ce que vous exposez, Vincent Jarousseau, j'allais dire, c'est la demande sociale, la demande de l'électorat, mais en face, que propose le Rassemblement national, justement, pour répondre à ces demandes que vous exposez?
Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que quand on regarde concrètement à l'œuvre les mairies RN, puisqu'on a maintenant un petit peu de recul, finalement on a des maires qui n'ont pas forcément, j'empiète sur la question du bilan, mais on a des maires qui n'ont pas forcément eu les coups des franches, ils n'ont pas forcément fait grand chose, ils ont d'abord voulu montrer qu'ils étaient des bons gestionnaires, sans dérapage des finances publiques. Alors, c'est plus ou moins vrai selon les endroits, mais ce sont des villes où on a principalement communiqué, où on a insisté sur les petites attentions du quotidien, sur la sécurité, avec souvent un doublement des effectifs de la police municipale. Rien d'extraordinaire, des politiques de droite, finalement, comme on peut en voir dans beaucoup de villes en France. Et quelque part, aujourd'hui, on s'inscrit s'inscrit finalement, quand on est un électeur de droite lambda, en se disant, enfin, il y a une forme de banalisation finalement dans la gestion de ces villes qui rassure une partie de cet électorat et nombre d'électeurs, tout simplement, ils trouvent leur compte.
À Marseille, Jean-François Poupelin, une chose qui semblait inconcevable, impensable, il y a quelques mois à peine, hein, Franck Aligio, le candidat du Rassemblement National, dans les sondages, se trouve aujourd'hui au coude à coude avec le sortant Benoît Payan, qui est lui divers gauche, 30% d'intention de vote chacun. Là aussi, du point de vue de la demande sociale et dans ce que propose le Rassemblement National, comment est-ce que vous l'analysez ?
Alors moi, ce que je vois, ce qui est très clair à Marseille, c'est la question de la sécurité, quand même, qui est très prégnante dans les médias, dans les enquêtes d'opinion aussi, avec la question du narcotrafic. Après, au-delà de ça, pour moi, le Rassemblement National a une histoire depuis longtemps avec Marseille. Donc, sans revenir aux années 70 et à la création du Front National, mais les histoires de ratonnades, il y a une implantation qui est historiquement forte. Alors, on le voyait un peu moins jusqu'en 2020, parce que le candidat Rassemblement National avait dû faire autour d'une dizaine de 2%, mais aujourd'hui, hein, ça ressort plus avec une droite qui est décrédibilisée par la fin du mandat Gaudin, qui a pas réussi à se renouveler et qui est en perte de vitesse au niveau national. Donc nous, on a là un électorat qui bascule au Rassemblement National sans se poser de questions d'une manière assez naturelle. On a aussi, pour en revenir aux demandes sociales, il y a cette question de la sécurité, de la propreté, alors un peu de l'immigration, mais pas tant que ça, mais surtout une ville qui est quand même très fracturée entre ses quartiers nord et le reste de la ville, et des quartiers qui sont en forme de repoussoir.
C'est intéressant l'argument de la fracturation et notamment de la fracturation sociale, Vincent Jarousseau, car effectivement c'est peut-être une donnée qui revient dans énormément de communes déjà passées Rassemblement National. On a du mal à comprendre peut-être d'une manière intuitive en quoi cette scission, cette partition socio-culturelle parfois favorise le vote Rassemblement National. Comment l'un et l'autre se nourrissent ?
Bah, c'est vrai que c'est assez évident que le Front National, le Rassemblement National, excusez-moi, progresse là où les inégalités sont souvent extrêmement prononcées. Je vais prendre le cas par exemple de Beaucaire. Donc c'est une ville où moi je me suis posé pendant 2 ans entre 2014 et 2016, petite ville de 16 000 habitants, hein, équidistance d'Avignon, Arles et Nîmes, où vous avez un petit peu comme à Orange d'ailleurs, hein, un centre-ville extrêmement paupérisé, un centre-ville historique, hein, c'est avec un patrimoine assez marqué, une ancienne ville de foire, hein, très importante, où vous avez une population maghrébine extrêmement importante et aussi d'ailleurs sud-américaine équatorienne, hein, c'est la nouvelle immigration depuis
maghrébine, c'est-à-dire d'origine, hein,
plutôt, d'origine maghrébine. Hein, là, on parle de vieille immigration algérienne, puis marocaine, et depuis maintenant une dizaine d'années, depuis la crise des années 2010 en Espagne. On a une population de travailleurs équatoriens qui viennent d'Espagne avec des visas espagnols et qui travaillent comme travailleurs détachés dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, on a une population, par exemple, dans cette ville. Il n'y a jamais eu autant d'immigration à Beaucaire, paradoxalement, alors que la ville est dirigée par le Rassemblement National depuis une dizaine d'années. À contrario, on a autour de cette ville des grandes zones pavillonnaires, avec des, y compris même des quartiers quasi fermés, hein, où les modes de vie sont effectivement, où les gens se croisent assez peu, où on a un niveau de vie un peu plus élevé, et c'est dans ces quartiers que se concentre l'essentiel du vote du Rassemblement National. Et donc la demande, en effet, c'est une demande finalement de préservation du cadre de vie, de sécurité, de propreté. C'est un mot qui revient très souvent dans la bouche des électeurs du Rassemblement National. Quand on parle de propreté, on parle de propreté du quotidien, mais ça va au-delà. Moi, je le voyais très bien à Hénin-Beaumont ou à Yange, où les électeurs me disaient, depuis que le maire est là, c'est beaucoup plus propre, mais en pointillé, ce que l'on pouvait aussi entendre, c'est beaucoup plus propre, parce qu'il n'y a plus les SDF qui font la manche à la sortie du Lidl.
Donc, c'est pas simplement les déchets, les détritus
ce sont aussi les personnes. Il faut bien voir que dans ces villes, il y a eu, je dirais, aussi des actions, une forme de harcèlement, hein, d'une certaine manière aussi, de la police municipale, pour renvoyer aux marges des personnes en situation de précarité, qu'elles soient françaises ou voire roms, comme c'était le cas à Hénin Beaumont.
On est quand même un peu surpris que le terme de propreté puisse recouvrir tous ces cas de figure-ci. Je voudrais qu'on revienne à Marseille, justement, Marseille, qui est un enjeu véritable et de fond pour le Rassemblement National. Quatre voix pour l'illustrer. Jordan Bardella, Franck Aligio, on en parlait, hein, le candidat Rassemblement National, et deux Marseillaises qui s'expriment à propos de ces élections à venir.
Il n'y a pas d'alliance au niveau national, mais c'est vrai qu'en fonction de considérations locales, un certain nombre de personnes font le choix d'apporter un soutien très clair à notre liste. Franck Aligio peut être le prochain maire de Marseille. Tous les sondages disent aujourd'hui qu'il fait partie des potentiels vainqueurs. Je souhaite que nous puissions remporter la ville de Marseille.
Les efforts budgétaires, vous les mettez où vous souhaitez les mettre. C'est ça la politique. Et moi, mon effort budgétaire, je le mettrai sur la police municipale. Comment on explique et qu'est-ce qui justifie que sur les 5 dernières années, on ait augmenté les aides, les subventions aux associations de 50%. Bon, eh ben cet argent, il était sûrement mieux utilisé en augmentant le nombre de policiers. 1000 policiers, ça nous ferait arriver juste dans la moyenne nationale.
Pour moi, ce serait une victoire. J'espère que le RN prendra place sur Marseille, quoi.
Ça m'aurait fait de voir le RN à ce niveau et que les gens croient qu'il va apporter des solutions, alors que je pense pas du tout.
Jean-François Pouplein, que représente Marseille cette fois-ci pour les cadres du Rassemblement National, pour le parti lui-même ?
Moi, j'ai l'impression qu'ils se prennent vraiment à rêver depuis peut-être pas la rentrée, mais depuis l'automne, parce que les sondages effectivement sont excellents pour le Rassemblement National. Donc, je suis pas sûr au regard de la victoire du printemps marseillais, de l'implantation aussi de la gauche au niveau local. Avec ses députés, ça pouvait passer, mais en fait, je pense qu'il commence à rêver vraiment, et que si c'est la seule victoire, ce sera déjà une victoire formidable. Après, ils ont pas le RN n'a pas des ambitions sur Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et dans le sud de la France.
Lesquelles alors? Il faut nous exposer les autres.
Nous, moi, on a travaillé donc avec un collectif de journalistes indépendants, des médias locaux à Arles, l'Arlésienne et puis à Béziers, Le Point, sur la gestion municipale à travers notamment des éléments budgétaires. Donc on a fait une projection en fait des derniers scrutins. Nous, on voit une bonne dizaine de villes, hein, sur les Bouches-du-Rhône déjà, avec Martigues, Aubagne, des petites villes du tour de l'étang de Berre aussi. Il y a des mairies de secteur à Marseille, donc ça c'est moins important, mais c'est symboliquement ça peut aussi jouer. Et puis après, ben ça peut être aussi Saint-Raphaël, Toulon dans le sud de la France, pour reprendre des villes plus importantes. Après, sur Marseille, le RN en rêve aussi, parce que le changement de scrutin lui est beaucoup plus favorable, en tout cas est favorable à l'émergence d'une tête et un parti. Donc c'est la réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille, où cette fois, pour la première fois depuis le début des années 80, les maires vont être élus à l'échelle de la ville et pas à partir justement des mairies de secteur.
Jordan Bardella a dévoilé deux grands objectifs pour le Rassemblement National au cours de ces prochaines élections municipales qui auront lieu dans moins d'un mois, on le rappelle. Premier objectif, remporter plusieurs dizaines de communes dans un premier temps. Deuxième objectif, tenter de conquérir des métropoles. Commençons par le premier, Vincent Jarousseau, plusieurs dizaines de communes. C'est ambitieux ou cela vous semble réaliste pour le Rassemblement National ?
C'est toujours difficile à dire. Bon, j'aurais du mal à porter un jugement, mais ça me semble relativement réaliste. D'autant plus que, alors, commune, c'est très large, hein, parce qu'on n'a pas parlé des petites communes. Il serait aussi intéressant de voir quelle est la stratégie du Rassemblement National, qui, par endroit, par exemple, ne présente pas de candidat. Je pense, par exemple, à Annonay. Et je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à ces villes, Annonay en Ardèche, hein, de s'intéresser à ces villes où il n'y a pas de candidat du RN, Il n'y a pas de liste, parce que finalement, il peut y avoir une potentielle compatibilité, finalement, de certains maires sortants de droite avec le Rassemblement National.
Qu'est-ce que ça révèle, selon vous ? C'est une forme aussi, là, peut-être, aux prochaines élections, d'une victoire, non pas dissimulée, mais d'une quasi-victoire du Rassemblement National ?
Il y a une stratégie, très clairement. Alors, l'UDR est, de ce point de vue, la formation...
La formation d'Éric Ciotti.
D'Éric Ciotti, qui sert un petit peu, je dirais, de cheval de Troie pour faire basculer des villes de droite, hein, mais on a moult exemples, notamment dans la vallée de la Garonne, hein, je pense à Mirmande, mm-hmm. aussi, qui est un fief socialiste, même si c'est dirigé par la droite depuis 2020, mais on a dans la banane aussi, de la pauvreté en Gironde, j'étais à Blaye la semaine dernière, où il y a des ambitions très fortes, hein. J'étais par exemple à Blaye, j'ai entendu parler comme ça d'un président de Rotary Club qui n'est pas encarté au Rassemblement National, mais qui est soutenu par le Rassemblement National. Donc il y a aussi beaucoup de communes qui vont être remportées comme ça. Donc l'objectif de plusieurs dizaines, si on élargit, je dirais, le spectre à toutes ces petites candidatures, effectivement, peut être extrêmement large. Et puis effectivement, il y a des métropoles, je pense à Nîmes, on n'en a pas parlé. La semaine dernière, Julien Sanchez, qui s'était fait élire à Beaucaire en 2014, qui est député européen, qui a démissionné de la mairie de Beaucaire depuis qu'il est député européen en 2024, vient de présenter sa candidature à Nîmes. Sachant qu'aujourd'hui, on a une droite divisée, qui était au pouvoir dans la ville depuis plus de 25 ans. Le maire sortant ne se présente pas, donc il y a un point de faiblesse. Avec un candidat communiste qui a réussi à rassembler très largement la gauche, à l'exception de LFI, qui bénéficie plutôt d'une bonne dynamique. Mais l'entrée en lice de Julien Sanchez rebat peut-être un petit peu les cartes dans cette ville. Et pour le coup, là, l'objectif, véritablement, c'est la métropole de Nîmes, parce que on sait qu'un certain nombre de communes de la couronne nimoise peuvent basculer à l'occasion de ce scrutin.
Je reviens un instant, Jean-François Poupelin, sur ces petites communes et sur la stratégie du Rassemblement National pour tenter de les conquérir. Est-ce qu'au fond, comme le décrivait Vincent Jarousseau, il y a une forme de stratégie, d'alliance implicite pour tenter effectivement d'accéder au mérite de ces communes ?
Il y a un label dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône, qui a été lancé par donc le candidat Franck Alizio, le candidat Rassemblement National à Marseille, mm-hmm. qui est aussi député de la circonscription qui est autour de Marignane, qui est dirigé par Éric Le Dizès, qui lui-même est très proche du Rassemblement National. Donc Marignane, c'était une des villes conquises en 95 par le Front National, qui a jamais vraiment rebasculé du côté de la droite républicaine. Et donc ils ont lancé un label autour des villes de Provence. Je vous avoue que je l'ai oublié, mais qui permet aussi de ratisser de rassembler un certain nombre de maires ou de candidats qui veulent pas se présenter sous le logo du Rassemblement National, mais avec son soutien et d'une manière un petit peu cachée.
On évoque depuis tout à l'heure, hein, énormément de communes qui se trouvent peut-être, de par vos parcours respectifs à chacun, dans le sud, dans le sud-est de la France notamment. Est-ce qu'il existe aujourd'hui deux modèles politiques pour le Rassemblement National, celui du sud et celui du nord, Vincent Jarousseau ? Dans le sud, peut-être un Rassemblement National qui se fonde plus largement sur des variables, disons, ethno-culturelles, sur un discours beaucoup plus identitaire, et au nord, sur... des variables socio-économiques avec un discours, je mets des guillemets, des discours plus sociaux, au moins en apparence.
Oui, non, mais la stratégie de Marine Le Pen, avant même qu'elle prenne la présidence du parti en 2011, ça a été de s'implanter à Hénin-Beaumont et dans le bassin minier. Et ceci n'est pas le fait du hasard. En 2002, à la présidentielle, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour, il y accède parce que, pour la première fois, il arrive en tête dans l'électorat ouvrier. Et ça, ils l'ont parfaitement compris, ce glissement. Et donc, il y a un changement sémantique qui s'opère à cette époque, dans ce parti, de conquête des classes populaires blanches dans les anciens bassins industriels du nord-est de la France. Ça, le Front National de l'époque le comprend parfaitement bien, et Marine Le Pen prend les habits de, y compris dans son vocabulaire, dans la manière de s'habiller, en essayant aussi, je dirais, de caresser dans le sens du poil les sociabilités populaires locales. Et ça s'est traduit par des résultats. Hein. Les plus gros résultats du Rassemblement National se sont opérés d'abord dans ces régions, au-delà du sud de la France. Et effectivement, quand on regarde la mairie d'Hénin-Beaumont, on a un fonctionnement un peu différent. Ou à Yange aussi, où on a beaucoup investi, par exemple, les fêtes locales, les festivités locales, où on fait de la triangulation. Par exemple, à Hénin-Beaumont, vous avez eu récemment un salon et une exposition sur les luttes pour les droits LGBT. Donc on renverse comme ça, parce qu'on est dans un...
À Yange, néanmoins, on se souvient de cette fête aussi qui avait fait polémique, pour le coup identitaire, oui. La fête du cochon.
Oui, j'ai assisté à la première fête du cochon, il y a quelques-unes... pour
c'est pas la triangulation, pour l'écriture, en l'occurrence.
Non, pour l'écriture de l'Illusion Nationale, c'est pas du tout de la triangulation. Mais ceci étant, quand vous allez à Yange, la première chose dont les habitants vous parlent, c'est cette fête du cochon dans un endroit où il se passe pas grand-chose. Et c'est une animation gratuite. Et comme en plus on en parle nationalement, on est plutôt fiers de ça. Et d'ailleurs, les opposants aujourd'hui ne remettent pas en cause le principe d'une fête... populaire comme la fête du cochon, sauf que des fêtes du cochon, il en existe partout ailleurs, sauf que moi, je ne connais pas de fête du cochon où on a un discours politique d'une demi-heure du maire vantant, je dirais, les mérites de la civilisation occidentale.
Jean-François Pouplein, est-ce que vous accréditez vous-même cette thèse d'un parti, mais de deux modèles en un, celui du Sud et du Nord, ou alors, au fond, c'est une même ombrelle qui rassemble des discours politiques peut-être différents en apparence, mais qui se rejoignent sur le fond ?
Alors moi j'ai plus l'impression en tout cas que c'est plutôt l'électorat qui va différer. Donc est-ce que le discours ça s'adresse peut-être certainement, enfin s'adapte en tout cas à cet électorat, mais on a un électorat qui est un peu différent, une histoire comme je vous disais tout à l'heure de l'extrême droite en Provence, un électorat qui est un petit peu plus, enfin en tout cas qui est un peu moins populaire classe populaire du côté du sud de la France, avec des classes moyennes un petit installées, des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, donc qui peuvent avoir là un capital économique qui est un petit peu supérieur à leur diplôme, comme le dit Félicien Faury dans son travail, et donc des gens qui vont avoir des préoccupations qui sont un petit peu plus centré sur leur niveau de vie aussi, sur les questions de l'immigration, sur les questions de sécurité, qui sont peut-être plus importantes de notre côté. Mais moi, je vois plus l'adaptation à un électorat qui a des stratégies, qui sont des stratégies de conquête, hein, mais qui sont pas un bouleversement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un bouleversement du programme sur les villes. Dans les communes que gère le Rassemblement National.
Selon l'agence France Presse, ce matin, la justice a sonné, je cite, la fin de la dynastie des Bompard dans la commune d'Orange que vous évoquiez, Vincent Jarousseau, à Orange, dans le Vaucluse, en condamnant lundi le fils, Yann Bompard, maire de la ville depuis 2021, à 5 ans d'inéligibilité, une décision qui s'applique immédiatement et le contraint à démissionner. Yann Bompard, jugé à Marseille pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire, devra aussi démissionner de son mandat de conseiller départemental. Il avait succédé à son père, Jacques Bompard, maire de cette ville de 30 000 habitants depuis 1995, quand celui-ci avait été condamné pour prise illégale d'intérêt. Fin de citation. Vincent Jarousseau, est-ce qu'une part du bilan du Rassemblement National dans les communes qu'il dirige, c'est aussi une forme parfois de clientélisme divers et varié, mais en tout cas une constante peut-être dans certaines de ces communes?
Ah mais si on prend toutes les villes une par une, enfin dans de nombreuses villes gérées par le Rassemblement National, vous avez des budgets consacrés aux frais de justice qui sont extrêmement conséquents pour différents types d'affaires.
Hein, qu'ailleurs.
Plus qu'ailleurs. Alors, évidemment les affaires en diffamation, ça c'est tout le temps, mais pas que. Je pense notamment à Yange, hein, où le vent du boulet est passé pas très loin. Alors là, pour le coup, c'était au début du premier mandat de Fabien Gelman, hein, qui avait failli être invalidé à l'époque. Hein. À Hénin-Beaumont, vous avez aussi, j'ai plus exactement les affaires en tête, mais enfin, il y a aussi un certain nombre de sujets qui se posent. Mais au-delà de la question de la justice, on voit aussi un système clientéliste qui se met en place, parce que quand vous détenez tous les pouvoirs locaux, si je prends le cas de Hénin-Beaumont, c'est la circonscription, c'est les deux cantons, c'est un poste de sénateur, c'est un député européen, c'est moult conseillers municipaux, évidemment.
Ça, c'est le vote populaire qui les a hissés à ces postes.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, vous avez aussi toute une série de postes de chargés de mission, d'emploi, de ce qui, par ailleurs, il y a une forme de normalité. Il y a rien d'illégal, mais il y a une forme, je dirais, de...
Si on allait dans certaines régions tenues par d'autres partis, est-ce que ce serait différent? C'est ma question.
Mais le Rassemblement National n'a pas l'exclusivité du clientélisme. C'est pas du tout mon propos. Ça existe depuis bientôt. Mais je dirais que c'est assez logique, finalement, quand il est en situation, qu'il épouse des formes de culture clientéliste.
Jean-François Pouplein, dans les différentes enquêtes que vous avez menées avec vos collègues journalistes, est-ce que vous avez identifié aussi, j'allais dire, un tropisme particulier pour le clientélisme?
En tout cas, c'est des pratiques qui vont se retrouver, nous, qu'on a pu voir... Si on prend, en tout cas dans les gestions municipales, on s'est intéressé beaucoup principalement aux subventions aux associations. Et il y a un prisme sportif qui est très fort et qui, là, peut relier, ce que nous racontent les oppositions, qui peuvent retrouver des clientèles. Je pense à des petites villes du Vaucluse où les clubs de rugby sont particulièrement bien financés. Et parce que c'est l'électorat Rassemblement National qui se concentre sur un club, sur deux clubs, en tout cas sur un sport en particulier.
Il y a la thématique évidemment qui revient à chaque élection pour le Rassemblement National, celle des brebis galeuses, je mets des guillemets autour de l'expression, entre guillemets, ces candidats dont le RN ne parvient pas nécessairement à contrôler le passif, les dires, l'historique, parfois d'ailleurs ils les ont contrôlés mais ils les laissent se présenter tout de même. Est-ce que là, sur ces 650 listes à venir Rassemblement National pour les prochaines élections municipales, Vincent Jarousseau, des dispositifs particulier de sélection des candidats ont été mis en œuvre, ou du moins, est-ce qu'il y aura un peu plus d'attention portée au profil de ces personnes?
Je ne sais pas. Ce que je sais, en tous les cas, c'est qu'il y a une sacrée opération de communication de la part du Rassemblement National qui a mis en place une commission pour sélectionner les candidats, mais à l'échelle de 650 villes et 650 listes, parce qu'il n'y a pas que les têtes de liste. Je doute que ce travail de vérification puisse être fait. Et je pense que, je dirais que c'est du temps réel ce dont on parle, mais c'est tous les jours, on a des tweets qui sont ressortis, des posts qui... Voilà, c'est malgré toute la communication qui a été faite depuis des mois et des mois sur le sujet, on se rend compte que finalement, ces brebis galeuses, elles sont toujours là. Parce que c'est inhérent, je dirais, à ce parti, c'est inhérent à son électorat, tout simplement. Et qui on va retrouver...
Son électorat, il y a plus de... C'est-à-dire ?
Écoutez, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'expriment. Il y a des gens qui s'expriment et qui expriment des opinions.
Et ça représente véritablement l'électorat du Rassemblement National.
C'est une partie. Non, ça représente pas tout l'électorat, mais ça représente une partie de l'électorat. Soyons clairs. On n'aurait pas le temps ici, mais je pourrais vous parler des conversations que j'ai pu avoir avec les électeurs du Rassemblement National pendant 10 ans. Et pour le coup, moi, j'étais plutôt dans une posture d'écoute et non pas de débat avec eux. Et quand on écoute, les gens se lâchent. Donc, à partir de là, c'est assez logique que parmi les candidats, dans une partie de cet électorat et dans une partie des candidats, vous ayez effectivement des brebis galeuses, malgré toute l'attention portée pour apparaître avec les mains les plus propres possibles.
Jean-François Pouplein, votre point de vue sur cette sélection des candidats Rassemblement National?
Alors, je suis assez d'accord avec Vincent Jarousseau. C'est compliqué de le faire au jour le jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attention quand même particulière. On l'a vécu à Marseille ce week-end avec l'annonce du soutien du Parti de la France de Karl Lang, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen, et d'un parti pétainiste. Notamment de ce petit parti groupuscule pétainiste qui a apporté son soutien à Franck Alizio en fin de semaine dernière ou samedi, et immédiatement le Franck Alizio et son équipe ont réagi pour dire qu'ils n'étaient pas au courant, qu'eux ne l'acceptaient pas ce soutien, que c'était justement un parti antisémite, raciste et pétainiste. Enfin, ils les ont mis vraiment à distance. Alors qu'en 2020, on retrouvait dans la campagne de Stéphane Ravier, donc qui est un sénateur issu du Rassemblement National et de Reconquête, on retrouvait des identitaires, des royalistes, et ça posait beaucoup moins de problèmes.
Sur le clientélisme, je reviens au clientélisme, on pense par ailleurs au travail remarquable de la journaliste Camille Vigone dans son ouvrage « Les rapaces » et sur la ville de Fréjus, Vincent Jarousseau. Vous parliez un peu plus tôt de la volonté des maires Rassemblement National de se présenter aux yeux de leurs électeurs comme de bons gestionnaires. Depuis 2014, depuis 2020, qu'est-ce que l'on observe de ce point de vue-là, justement, du point de vue strictement comptable? Est-ce qu'ils ont réussi?
Disons que les villes remportées en 2014, hein, puisque c'est l'essentiel des 17 villes actuellement gérées par l'Assemblée nationale, étaient des villes toutes en grande difficulté financière, y compris avec des passifs des anciens maires. Je pense à Hénin-Beaumont, où un ancien maire avait été condamné à la prison ferme. Hein. Voilà. Et donc, la situation financière de ces villes étant fragile, les coudées des maires RN et leur marge de manœuvre étaient finalement assez limitées dans la gestion. Donc, ils ont voulu se montrer comme des bons gestionnaires soucieux de des dépenses publiques, hein, donc assez peu de dépenses engagées, sauf dans la sécurité, mais très peu finalement d'investissements, très peu de travaux structurels. Ce sont des villes, quand vous vous y promenez, moi je suis retourné récemment à Yange, à Hénin-Beaumont aussi, ou à Beaucaire, ce sont des villes qui finalement, quand on revient 12 ans après, ont assez peu changé finalement dans leur aspect, dans leur structure. Si on fait un bilan juste visuel.
Merci beaucoup à tous les deux de ce petit tour de France des communes du Rassemblement National. Jean-François Pouplein, journaliste chez Mars Actu, auteur de l'enquête intitulée « Extrême droite, la casse sociale ». C'est chez Média Vivant. Et Vincent Jarousseau, documentariste et photographe, auteur notamment de l'ouvrage intitulé « Dans les âmes et les urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote RN », un livre qui est paru le 16 janvier dernier aux éditions des Arènes. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vancet, Stéphanie Villeneuve, Antoine Héral, Mathias Mégy. À suivre après le journal, le droit international a-t-il seulement déjà existé alors qu'il est attaqué à peu près par tout le monde, notamment par Donald Trump, le président américain.